Vendredi, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au stade panathénaïque d'Athènes, une étape qui marque un nouveau cap avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le 26 juillet prochain. Le relais, en tout cas, a commencé le 16 avril, lui, avec l'allumage de la flamme sur le site d'Olympie, bien sûr, le lieu de naissance des Jeux Antiques. Cancer de Charles III, le roi reprend ses activités publiques. Le monarque britannique, qui avait suspendu ses engagements publics après l'annonce de sa maladie en février dernier, retrouvera un emploi du temps plus conséquent dès la semaine prochaine. Si le palais ne livre que peu de précisions quant à l'état de santé du roi, dont on ignore d'ailleurs toujours la nature du cancer, un porte-parole de Buckingham a indiqué que ses médecins jugeaient très encourageants les progrès de son état de santé depuis l'annonce de son cancer. Et puis enfin, c'est un symbole de la fast fashion dans le monde. Coup dur pour la marque Shein. L'Union européenne a décidé d'imposer des règles renforcées aux champions chinois de la fast fashion. Emblème des dérives sociales et environnementales du milieu du prêt-à-porter, la société devient en effet la 23e plateforme à se voir imposer des règles européennes plus strictes après X, Facebook ou encore Google. La mesure, elle, entrera en vigueur dès cet été, normalement.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Sujet à la phobie de l'avion. Même si c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, l'idée même de monter dans cet espace clos et volant vous angoisse. Alors comment lutter contre cette phobie de l'avion? Quelques conseils qui pourraient vous aider. Tout d'abord, habillez-vous de manière confortable, des vêtements plutôt amples pour éviter la sensation d'étouffement. Veillez également à porter des vêtements pas trop légers, car dans la cabine, l'air est sec et plutôt frais. Dès que vous vous installez, respirez doucement par la bouche. Fermez les yeux, ça ralentira votre rythme cardiaque. Ensuite, discutez avec vos voisins, regardez autour de vous, appropriez-vous l'espace. Pendant le vol, apportez de quoi vous distraire. Baladeurs et revues sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous lever et marcher dans les couloirs, ça détendra vos jambes et vos muscles. La gorge qui se noue, buvez autant que vous voulez, mais évitez les boissons alcoolisées. Elles sont peu hydratantes et risquent d'avoir des effets secondaires avec l'altitude. Enfin, si ces conseils ne suffisent pas, préparez-vous avant votre voyage avec des séances de relaxation. Et si ce n'est pas encore suffisant, alors adressez-vous à votre compagnie aérienne. Certaines proposent des suivis psychologiques et des simulations de vol. Par contre, il vous en coûtera autour de 450 euros.
La radio qui vous veut du bien, avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé. Et nous parlerons de votre chronique sport et loisirs. Assez de devoir attendre pour écouter un point complet sur l'information ? Écoutez Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes. Autour de l'actualité nationale et internationale, nos 45 journalistes experts vous parlent 24 heures sur 24 de l'actualité sportive, high-tech, technologie, immobilier, juridique. Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes, c'est sur votre smartphone ou tablette avec l'appli Replay News et sur replaynews.net. Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la
radio qui vous veut du bien.
Je t'ai passé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air.
Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent. Ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent?
Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Passé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Garder les larmes est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister, mais au moins j'essaye.
J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent?
Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil.
Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Mon existence, j'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Radio Public Santé.
Une entorse est un traumatisme d'une articulation, la cheville, le genou, le poignet ou le pouce. Au moment d'une entorse, l'articulation fait un mauvais mouvement. Elle se tord et les ligaments qui l'entourent se distendent. Parfois, ils se déchirent comme un bout de tissu, d'où l'apparition d'un hématome, un bleu. La plupart des entorses sont bénignes et guérissent après une immobilisation de quelques jours. Si ça vous arrive, arrêtez impérativement le sport, la poursuite du sport pouvant aggraver les lésions. Refroidir la blessure avec de l'eau fraîche ou de de la glace en ayant soin d'intercaler un linge entre la peau et la glace pour éviter les brûlures par le froid. Mettre en place un bandage modérément serré et surélever la partie atteinte par rapport au niveau du thorax pour les entorses qui ont tendance à gonfler. L'idéal est de pouvoir consulter son médecin habituel le plus vite possible. Il pourra vous prescrire un strapping ou plutôt maintenant une attelle qui se vend en pharmacie et qui sera mise en place pour quelques jours. Elle consolidera la cheville fragilisée tout en évitant une immobilisation totale et évitera une rééducation des muscles. Un traitement médical antalgique, plus ou moins des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire autres que la cortisone, vous seront prescrits. De même, il sera conseillé de garder le pied surélevé pour améliorer la circulation sanguine. Parfois, elles sont plus graves. Dans ce cas, il faut faire des radios pour éliminer une fracture ou le traitement sera radicalement différent. Un conseil simple pour diminuer le risque d'entorse de la cheville. Que vous soyez plus jeune ou plus vieux, mettez des chaussures adaptées à l'activité du moment. Les personnes âgées doivent faire attention. Une chute due à un faux pas peut entraîner non pas une entorse de la cheville, mais une fracture du poignet ou du col du fémur. Les chaussures doivent être confortables, elles doivent céder d'une canne si la marche est hésitante. Et soyez prudent toutefois, les récidives sont fréquentes car elles entraînent une fragilisation de l'articulation.
Réécoutez cette chronique et échangez vos avis sur internet www.publicsante.com.
Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it. Selon l'enquête JNA 2016, le smartphone, ami ou ennemi de notre santé auditive, 7 jeunes sur 10 écoutent de la musique sur leur smartphone plus d'une heure par jour, essentiellement dans les transports, mais aussi dans leur lit. La moitié d'entre eux s'endort d'ailleurs avec. Cette écoute, souvent à fort volume, s'ajoute aux autres expositions sonores de la journée, dans la rue, les salles de classe, à la cantine, en discothèque ou en concert, laissant peu de répit aux oreilles. Pourtant, les oreilles sont fragiles et fragilisées par cette sollicitation sonore continue. Vous trouvez que votre ado est accro et que le smartphone est devenu une source de conflit à la maison ? Eh bien voici quelques éléments d'explication pour remédier à la situation. Le smartphone procure une formidable liberté d'écoute à nos ados. C'est aussi le premier objet d'émancipation par rapport aux parents et plus largement aux adultes. Dans cette période particulière qu'est l'adolescence, partager un style musical contribue au sentiment d'appartenance à un groupe de copains. Par ailleurs, l'écoute de la musique au casque est une manière pour l'ado de retrouver un espace bulle et de contrôler sa relation aux autres. Il peut être à proximité de vous, dans la même pièce que vous, sans être vraiment avec vous. Il peut aussi écouter les conversations des adultes sans en avoir l'air. Mais l'effet bulle devient pernicieux lorsque la vie sociale s'appauvrit et que la relation fantasmatique remplace le contact dans la vie réelle. C'est alors que le smartphone et l'écoute de musique peuvent se transformer en doudou toxique. De tels comportements sont souvent associés à une durée et à une intensité d'écoute de la musique pouvant fragiliser le système auditif de votre adolescent. Ceci car l'audition repose sur des mécanismes qui ne permettent ni d'absorber la puissance du son ni sa durée. Nous sommes dotés à la naissance d'un capital de 15 000 cellules sensorielles par oreille. Ces cellules, fragiles, s'usent naturellement avec l'avancée en âge. La limite physiologique de notre système auditif est théoriquement située à 80 décibels pendant 8 heures d'exposition, ce qui représente l'équivalent du niveau sonore de certains aspirateurs. Le smartphone atteint quant à lui 100 décibels à plein volume, soit l'équivalent d'une moto en fonctionnement. Sa durée d'écoute à ce volume ne devrait pas dépasser 7 minutes. La surdité, qui découle des mauvaises pratiques d'écoute de nos ados, peut engendrer des difficultés d'apprentissage. Il est donc nécessaire de réguler les habitudes d'écoute de nos adolescents. Selon les experts, 45 minutes de musique à la moitié du volume est admissible. Il faut également intégrer des temps de répit. Le sommeil, pendant la nuit, en est un, à condition que l'ambiance sonore ne dépasse pas les 30 décibels et que votre adolescent ne s'endorme pas le casque sur les oreilles. L'éducation à la santé auditive est un enjeu essentiel pour modifier les comportements toxiques de nos enfants. Il est possible d'agir en évitant de mettre notre smartphone et autres matériels sonores, PC, tablettes, vidéos dans la voiture, entre les mains des plus jeunes. Enfin, parmi les bonnes pratiques d'éducation à la santé, un bilan complet de l'audition chez le médecin ORL tous les 5 ans est recommandé pour faire le point sur son capital auditif. En montrant la voie à suivre, des changements s'opéreront et la santé auditive de nos enfants sera ainsi préservée.
Vous écoutez Radio Public Santé, Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. One guns, lay down your arms and get
J'ai oublié ma pilule hier. Si j'en prends deux maintenant, ça devrait le faire. Non, j'en sais rien. Ça fait 3 ans que je la prends tous les jours, je vais pas tomber enceinte direct. Sauf que j'ai fait l'amour avec Seb il y a 2 jours. Voilà, voilà, ça craint ça. Bon, je fais quoi alors? Je demande à qui?
En cas de doute, vous avez jusqu'à 5 jours pour bénéficier de la contraception d'urgence. Plus vous la prenez tôt, plus elle est efficace. Parlez-en à un professionnel de santé. Plus d'informations sur choisirsacontraception.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio
qui vous veut du bien.
I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
So sad. I don't think he's coming back.
Toujours correctement perçue sur le plan nutritionnel. Si certains la classent dans la famille des fruits et légumes, car elle est effectivement cultivée comme un légume, sur le plan nutritionnel, il s'agit bien d'un féculent. Comme le pain, les pâtes, le riz ou encore la semoule, elle n'apporte pas de graisse, pas de protéines, mais elle est riche en sucres complexes. Ces sucres complexes sont importants car ils fournissent l'énergie dont notre corps a besoin quotidiennement pour fonctionner. En plus, ces glucides complexes font partie des nutriments qui permettent de ne pas avoir faim pendant plusieurs heures après un repas. La pomme de terre a d'autres talents nutritionnels. Elle contient un peu de fibres alimentaires, des vitamines du groupe B, du potassium, et c'est le seul féculent à être source de vitamine C. Sachez également qu'elle est pauvre en sel et qu'elle ne contient pas de cholestérol. D'une manière générale, il est conseillé de consommer des féculents chaque jour et même à chaque repas, et la quantité dépend de l'appétit de chacun. Concrètement, le pain peut être consommé matin, midi et soir, et en plus, on mange une assiette de féculents au choix au déjeuner, accompagné de viande, poisson, ou au dîner en tant que plat complet. En fonction du gabarit et de l'appétit de chaque personne, l'assiette de féculents doit peser entre 200 et 300 grammes. En théorie, les fans de pommes de terre peuvent donc en manger plusieurs fois par semaine. Pour optimiser les qualités nutritionnelles de la pomme de terre, il est préférable de la cuire avec sa peau à la vapeur. Elle peut ensuite être épluchée, simplement accompagnée d'un peu de beurre et de sel, ou consommée en gratin, en purée, en pomme de terre farcie ou même en salade de pommes de terre. Pour ceux qui préfèrent les pommes de terre en version salardaise, frites ou chips, limitez-vous à une assiette par semaine, car l'apport calorique n'est pas du tout le même. 100 g de pommes de terre cuites sans graisse vous apportent 80 calories. 100 g de frites en apportent 270 et 100 g de chips 540. En conclusion, moins la préparation de pommes de terre est grasse, plus on peut en consommer souvent. Comme les pâtes, on peut même en manger lors d'un repas qui précède une compétition ou un sport de longue durée. Elle apporte l'énergie qui sera libérée progressivement pendant l'activité. La pomme de terre a donc tous les talents pour donner la patate.
C'était votre chronique consommation. Réécoutez cette chronique sur internet. www.publicsante.com.
The last time, it's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, ring so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. Tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart.
playing house in the ruins of us.
Running back.
L'endométriose touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer. Une maladie gynécologique fréquente, pourtant encore assez méconnue, alors qu'elle impacte la fertilité, la sexualité et le quotidien des femmes touchées. Fonds de dotation spécialisé autour des enjeux de santé publique de la jeune génération. Le Lab M a décidé de se mobiliser avec d'autres acteurs déjà engagés afin de développer des actions de prévention ciblées et d'améliorer la prise en charge de l'endométriose. Première étape de ce plan national, EndoBLEM a pour ambition d'aider à comprendre la maladie et son impact nocif sur la vie quotidienne. Comprendre, s'orienter et mieux vivre avec sont les trois chapitres développés sur le site. Très pédagogique, EndoBLEM explique les différents types d'endométriose, les symptômes et leurs conséquences. Il présente aussi les différents types d'examens et oriente vers les médecins référents, des centres spécialisés et des traitements conventionnels ou alternatifs. EndoBLEM contient également un grand nombre de témoignages sous forme de podcasts, vidéos et articles de blog permettant de toucher tous les publics concernés par ce manque d'informations. Vous souhaitez donc plus d'informations? Rendez-vous sur le site endoblum.fr.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes.
6 minutes.
Un point sur votre actualité santé. Radio Public Santé.
La radio.
La radio qui vous veut du bien.
So it's a goodbye. It's time to set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. And deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone. Come on through, it's gonna shine for you, 'cause I adore.
Sûrement déjà entendu parler de la varicelle. Mais avez-vous déjà entendu parler du zona? Les deux virus sont pourtant intimement liés. Attention, ça n'est pas parce que l'on a déjà eu la varicelle étant petit que l'on ne peut pas être concerné par ce virus qui ne s'attrape en principe qu'une seule fois. La varicelle, très contagieuse, peut se réactiver à l'âge adulte sous la forme d'un zona. Le zona s'attrape par le contact avec des personnes atteintes de la varicelle qui font légion à certaines périodes de l'année. Il peut donc être très facile de l'attraper, principalement dans les grandes villes. Le zona, provenant du mot zone, se caractérise par l'apparition de vésicules groupées sur fond rougeâtre sur un seul côté du corps. Ces sortes de plaques apparaissent sur le trajet de nerfs sensitifs, ce qui provoque de grosses douleurs et fatigue beaucoup le corps. Les pustules qui apparaîtront vous rappelleront sûrement celles de la varicelle et disparaîtront sous 15 à 20 jours sous traitement prescrit par un médecin généraliste. Le zona peut devenir problématique chez les personnes ayant un système immunitaire réduit, c'est le cas notamment chez les personnes âgées. À la différence de la varicelle, le zona n'est pas contagieux, vous pouvez donc partir l'esprit libre si vous hésitiez à embrasser vos proches ou à serrer la main de vos collègues.
La radio qui vous veut du bien, avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé. Nous parlons cette fois-ci de la prévention, ce sera dans un instant, à tout de suite.
Hé, hey, t'as pensé à te protéger contre les tiques?
C'est bon, la petite bête va pas manger la grosse.
Oh, tu sais, la tique ça peut transmettre la maladie de Lyme. Du coup, je fais attention et je me balade avec des vêtements longs. J'utilise du répulsif et j'emporte un tire-tique dans mon sac. Et puis, mieux vaut éviter les hautes herbes. Et après la balade, moi, j'inspecte bien mon corps.
Contre les tiques, être vigilant, c'est être gagnant. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Radio publique santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio publique santé,
la radio qui vous veut du bien.
Derrière ce nom saugrenu se cache un bacille qui colonise la muqueuse gastrique. Et pour cause, ses capacités de résistance aux conditions acides extrêmes lui permettent de vivre au sein de cet organe. Si ce nom ne vous dit rien, l'infection à Helicobacter pylori est pourtant très répandue dans le monde. Elle colonise l'estomac de la moitié de la population mondiale. Rien qu'en France, sa prévalence est de l'ordre de 15 à 30%, avec une fréquence variant selon les tranches d'âge. C'est pendant l'enfance que la contamination se fait la plus probable, essentiellement dans les 5 premières années de vie, en raison de mauvaises conditions d'hygiène ou d'une grande promiscuité. En cause notamment, les contacts directs avec les sécrétions de l'estomac, comme les régurgitations ou les vomissements. La salive représente une autre source possible d'infection, c'est pourquoi les enfants qui portent souvent les objets à la bouche peuvent s'infecter au contact d'autres enfants, au sein d'une même famille par exemple. Mais Helicobacter pylori ne se développant que dans l'estomac, sachez que cette bactérie se transmet beaucoup moins facilement que d'autres. A noter que le risque de contamination à l'âge adulte est très faible, même si les mesures d'hygiène habituelles, en particulier le lavage des mains avant de cuisiner et de manger, restent nécessaires. La grande majorité des personnes contaminées par Helicobacter pylori n'ont pas de symptômes et ne développeront donc aucun problème de santé. Toutefois, bien que silencieuse, l'infection peut favoriser une inflammation chronique de la paroi de l'estomac, une gastrite. Celle-ci persistera toute la vie si elle n'est pas traitée. Le plus souvent, sans symptômes particuliers, il arrive qu'elle provoque une gêne et des douleurs au niveau digestif, des signes à prendre très au sérieux. Car comme le mettent en garde les autorités sanitaires à ce sujet, l'infection à Helicobacter pylori peut évoluer d'une gastrite vers des pathologies plus graves se révélant des années plus tard. C'est le cas des ulcères, plaies plus ou moins profondes de la paroi de l'estomac, et du cancer de l'estomac. C'est en se débarrassant de la bactérie que l'inflammation de la paroi de l'estomac disparaît, et avec elle les ulcères et autres troubles digestifs. Les personnes infectées sont traitées au moyen d'antibiotiques, accompagnées d'un médicament pour lutter contre l'acidité gastrique. Ce traitement, d'une durée de 7 à 14 jours, guérit l'infection dans 80 à 90% des cas.
C'était votre chronique traitement. Réécoutez cette chronique sur internet, www.publicsanté.com.
Of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. We talked around in circles and we talked around, and then I loved you to the moon and back again. You gave everything, this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know, that it hurts like so to let somebody go.
That we went through. Now without you,
to let somebody go. It hurts like so to let somebody go. But you're still with me now, I know.
À considérer un cliché sur un ressortissant d'un pays autre que le sien comme une caricature grossière, mais parfois les chiffres confirment qu'ils ne sont pas là pour rien. Oui, les Italiens et les Français sont des tombeurs, c'est tout au moins ce qu'indiquent les derniers résultats d'une étude IFOP. Plus d'un homme français sur deux aurait déjà trompé sa femme au cours de sa vie, ce qui fait des Français les champions d'Europe de l'infidélité à égalité avec les Italiens. 55% d'hommes indiquent avoir trompé leur femme. Ce sondage, mené par un site de rencontres extra-conjugales, était réalisé dans 6 pays européens, et l'on constate que dans le pays à dominante protestante, les chiffres sont plus faibles, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne. L'image des chauds lapins macho italiens et de Don Juan à la française est plus que jamais d'actualité. Autre idée reçue confirme par l'étude, la tromperie serait donc typiquement masculine. Chez les femmes françaises et italiennes, elle serait 1 sur 3, ce qui n'est pas négligeable non plus, mais bien moins répandu. Notons en plus que l'aventure extra-conjugale féminine est en forte augmentation, et ce sur les 20 dernières années. Par conséquent, selon cette étude, la France est donc déclarée championne d'Europe de l'infidélité, et c'est même un double titre pour l'Hexagone, puisque c'est aussi en France que l'infidélité est le plus considérée comme moralement acceptable, et ce pour 53% des Français, selon une autre étude publiée par Things That American.
C'était votre chronique découverte. Réécoutez cette chronique sur internet. www.publicsanté.com.
À me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan. Ma vie, c'est d'être fan.
Bonsoir à tous. Les évacuations ont débuté dans la rue Saint-Guillaume devant Sciences Po Paris ce soir. Des étudiants pro-palestiniens bloquent en effet l'accès aux bâtiments historiques pour réclamer entre autres la rupture des partenariats entre l'école parisienne et les universités israéliennes. Les CRS sont donc présents des deux côtés de la rue et font évacuer la voie publique à l'intérieur du bâtiment. Les élèves de Sciences Po, eux, maintiennent leur blocus. Les automobilistes de l'ouest parisien vont devoir prendre leur mal en patience. La portion fermée de l'A13 ne pourra pas rouvrir le 1er mai, alors même que cette possibilité avait d'abord été évoquée par la préfecture. La réunion prévue aujourd'hui entre les élus, la préfecture et les directions des routes a été reportée à la semaine prochaine. L'autoroute A13 est fermée dans les 200 centres Paris et Vaucresson depuis plus d'une semaine à cause d'une fissure importante apparue sur la chaussée. La flamme olympique a, elle, officiellement été remise aux organisateurs français ce vendredi lors d'une cérémonie qui s'est tenue au stade panathénaïque d'Athènes. Une étape qui marque un nouveau cap avant l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, le 26 juillet prochain. Le relais, en tout cas, a commencé le 16 avril, lui, avec l'allumage de la flamme sur le site d'Olympie, bien sûr, le lieu de naissance des Jeux antiques. Cancer de Charles III, le roi reprend ses activités publiques. Le monarque britannique, qui avait suspendu ses engagements publics après l'annonce de sa maladie en février dernier, retrouvera un emploi du temps plus conséquent dès la semaine prochaine. Si le palais ne livre que peu de précisions quant à l'état de santé du roi, dont on ignore d'ailleurs toujours la nature du cancer, un porte-parole de Buckingham a indiqué que ses médecins jugeaient très encourageants les progrès de son état de santé depuis l'annonce de son cancer. Et puis enfin, c'est un symbole de la fast fashion dans le monde. Coup dur pour la marque Shein. L'Union européenne a décidé d'imposer des règles renforcées aux champions chinois de la fast fashion. Emblème des dérives sociales et environnementales du milieu du prêt-à-porter, la société devient en effet la 23e plateforme à se voir imposer des règles européennes plus strictes après X, Facebook ou encore Google.